Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors que les Ukrainiens sont en difficulté face à la Russie, Emmanuel Macron veut passer à la vitesse supérieure en matière de défense. Il insiste notamment sur l'importance d'une économie de guerre en France et en Europe pour soutenir notamment l'Ukraine. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi ça fait débat? Et à quoi faut-il s'attendre? Surtout que la Russie aujourd'hui a réagi aux propos du président français. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, c'est dès le mois de juin 2022, donc quelques mois après le début de l'invasion russe massive en Ukraine il y a 2 ans, que le président français avait déclaré que la France entrait, je cite, dans une économie de guerre, et ce donc alors que la guerre faisait son retour en Europe. Mais déjà, peut-être, à quoi renvoie ce concept d'économie de guerre dont on entend du coup pas mal parler ces derniers jours? Déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, cette expression d'économie de guerre. Elle est en fait apparue pour la première fois lors de la Première Guerre mondiale. C'est un concept qui décrit en fait des mesures économiques qui sont prises par un gouvernement pendant une période de guerre ou alors de crise nationale importante. L'objectif en général de ces mesures, c'est de mobiliser une part importante de l'économie du pays pour soutenir l'effort de guerre, et ça peut prendre plusieurs formes, mais là, spontanément, ce à quoi on pense le plus souvent, c'est la fabrication de munitions et d'armes, par exemple. Ça peut donc passer par une augmentation de la production industrielle, par une redistribution des ressources, ou alors, dans les cas les plus extrêmes, par des mesures de rationnement pour garantir que les biens et les services essentiels soient disponibles pour les efforts de guerre et pour l'armée. Alors, évidemment, dans le cas ici, quand Emmanuel Macron parle d'économie de guerre, il parle pas de rationnement ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet. Dans ce cas précis, en fait, c'est déjà un élément de langage, on va en parler après, c'est une forme de communication face à Vladimir Poutine. Mais il y a aussi derrière ça, en fait, derrière ce terme d'économie de guerre, une volonté tout de même de renforcer les moyens d'un point de vue militaire pour être capable notamment d'aider l'Ukraine face à l'invasion de la Russie, mais pour aussi éventuellement pouvoir se défendre tout simplement dans le cas où un jour la France est attaquée. Alors pour qu'on ait un petit peu de contexte, faut savoir qu'aujourd'hui les pays sont globalement beaucoup moins tournés vers une économie de guerre qu'au siècle dernier par exemple, et si on donne des exemples peut-être les plus parlants, si on parle des États-Unis par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est 37% du PIB du pays, donc de l'ensemble des richesses produites du pays, qui a été consacré aux dépenses militaires. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est seulement 3,5% du PIB qui est consacré donc à l'armée. Pareil, du côté de la France ou des pays de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Il y a peu de pays finalement qui dépassent les 2% de leur PIB consacré à la défense. On est donc loin globalement d'une économie qui est tournée vers la guerre. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que depuis la guerre en Ukraine, il y a clairement eu des changements de discours. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron, évidemment, est l'un de ceux qui a le plus pris la parole sur le sujet. Alors forcément, quand on parle d'économie de guerre et quand le président français en parle, on peut penser au fait d'envoyer des soldats sur le front en Ukraine pour se battre. Là-dessus, on en parlait déjà la semaine dernière. Emmanuel Macron avait en effet déclaré, face à une question d'une journaliste, que rien n'était exclu concernant l'envoi de troupes occidentales et donc potentiellement françaises sur le sol ukrainien. Alors, ces propos avaient été jugés irresponsables par les oppositions, critiqués aussi par de nombreux pays européens qui avaient clairement pris leur distance avec le président français, estimant que l'envoi de troupes occidentales n'était pas du tout à l'ordre du jour. Alors depuis, il faut voir que le gouvernement a un petit peu rétro-pédalé ou précisé les propos. Le président français, notamment, en début de semaine, a déclaré que, en fait, il ne parlait pas de troupes combattantes, donc pas de soldats à proprement parler. On peut penser donc davantage à des personnes qui viendraient former plutôt les soldats ukrainiens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si jamais c'est pas à l'ordre du jour d'envoyer réellement des soldats français ou européens sur place, ce qui est sûr, c'est que le président français veut réarmer en quelque sorte le pays. et continuer à soutenir de façon importante l'Ukraine. En fait, ce qui est sûr, c'est que le président français souhaite une forme de réarmement industriel pour augmenter donc les capacités militaires de la France et être capable de pouvoir réagir en cas de conflit ou alors de besoins plus importants de la part de l'Ukraine. En effet, selon un rapport sur l'économie de guerre qui a été déposé par le député Horizon Christophe Plassard en mars 2023, je cite, notre modèle militaire et industriel n'est pas prêt pour un affrontement majeur. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat sur la question de la place de ces dépenses militaires. Est-ce qu'elles doivent être plus faibles, plus importantes, évoluer de cette façon? C'est un sujet dont on pourra reparler dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la loi de programmation militaire 2024-2030, c'est une loi qui a été définitivement adoptée par le Parlement au mois de juillet, eh bien, il y a un budget prévu pour les armées. Il y a un budget de 413 milliards d'euros prévu sur 7 ans. Et ça prévoit notamment donc l'équipement des munitions ainsi qu'un renforcement des effectifs. C'est assez majeur hein, parce qu'un tel budget, ça représente une hausse de 40% par rapport à la dernière loi et donc le dernier budget qui a été voté pour les armées. Par ailleurs, signe qu'il y a des discussions importantes, le président français a rencontré mercredi les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande pour parler justement de l'évolution du conflit en Ukraine et de l'aide apportée à l'Ukraine. Il a aussi réuni les chefs des différents partis ce jeudi pour présenter notamment les résultats de la conférence internationale sur le soutien à l'Ukraine que bien le président français a tenu à Paris la semaine dernière. Il a aussi réuni les chefs des différents partis ce jeudi pour parler notamment de l'accord qui a été conclu le 16 février entre la France et l'Ukraine sur un accord bilatéral de sécurité et donc de soutien important de la France envers l'Ukraine. A noter au passage que cet accord et donc ce soutien à l'Ukraine, il sera débattu par les députés français puis par les sénateurs les 12 et 13 mars, si jamais c'est quelque chose que vous voulez suivre. Selon le président français, il est, je cite, « nécessaire de bousculer les alliés de l'Ukraine pour faire face à une Russie inarrêtable, appelant donc les autres alliés de l'Ukraine, je cite, à ne pas être lâches. » C'est des propos qu'il a tenus mardi depuis Prague en République tchèque. Tout cela a beaucoup fait réagir l'opposition à gauche, à droite ou à l'extrême droite. C'est notamment ces propos où il n'excluait pas eh bien, l'envoi de troupes occidentales qui avait fait beaucoup réagir. Je vous en avais déjà parlé, Jean-Luc Mélenchon avait jugé certains propos irresponsables. Le Pen estimait qu'Emmanuel Macron jouait au chef de guerre. Et d'ailleurs, on peut noter que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé ce jeudi, dans une vidéo diffusée sur Telegram, qu'Emmanuel Macron augmente l'implication de la France dans le conflit en Ukraine. Bref, contrairement à ce que disent certaines rumeurs, non, il n'y a pas de déclaration de guerre de la France contre la Russie. Le président français, d'ailleurs, depuis Prague encore, a tenté de nuancer, estimant qu'il voulait éviter toute escalade. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que eh bien, Emmanuel Macron prend beaucoup la parole ces derniers jours pour appeler eh bien, la France et les autres pays européens à soutenir davantage l'Ukraine. Il faut savoir que eh bien, sur le front, l'Ukraine est en difficulté. Les Ukrainiens reculent face à la Russie sur de nombreux secteurs. Or, eh bien, l'armée ukrainienne repose eh bien, de façon très importante sur l'aide financière et militaire des Occidentaux, donc américains et européens, pour arriver ou tenter de faire face à la Russie. Ça me semble en tout cas intéressant d'analyser tout ça. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On suivra évidemment l'évolution de la situation et tout le débat lié à tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a qualifié, je cite, de honte pour la civilisation la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza qui entre dans son sixième mois. Il a également répété le soutien de la Chine à une pleine adhésion d'un État palestinien à l'ONU et a de nouveau demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Faut savoir que la Chine entretient de bonnes relations avec Israël, mais elle soutient depuis des dizaines d'années la cause palestinienne et milite pour une solution à deux États, comme la France notamment. En tout cas, la délégation du Hamas, qui était présente en Égypte depuis dimanche pour des discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, a quitté l'Égypte ce jeudi. Les négociations entre les représentants du Hamas et les médiateurs internationaux, donc les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, reprendront la semaine prochaine, donc pendant le Ramadan, le mois sacré du jeûne pour les musulmans. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, février 2024 a été le mois de février le plus chaud jamais enregistré sur Terre, comme le mois de janvier avant lui, selon l'observatoire européen Copernicus. C'est d'ailleurs la 9e fois d'affilée qu'un record mensuel de température est battu. Alors plus précisément, février 2024 a été plus chaud de 1,77 degrés par rapport à la moyenne des températures des mois de février entre 1850 et 1900, donc la période pré-industrielle industriel qui fait office de référence. Selon Carlo Buontempo, le directeur du Climate Change Service de Copernicus, ce nouveau record n'est pas vraiment une surprise, étant donné que le réchauffement continu de notre système climatique mène à des températures extrêmes. Troisième actu, ça concerne les Jeux Olympiques de Paris cet été. Le syndicat de la CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi sur France Info sa secrétaire générale Sophie Binet. Ça concerne donc les trois fonctions publiques, celle d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Concrètement, la CGT réclame que des mesures soient mises en place, notamment pour les travailleurs et travailleuses qui devront faire des heures supplémentaires et qui ne pourront pas poser de congés payés pendant cette période du 26 juillet au 11 août. Parmi ces mesures réclamées, il y a la question des primes, dont une de 1900 euros a déjà été annoncée pour les forces de l'ordre, mais pas pour les autres secteurs, mais aussi la question de la garde des enfants ou encore du logement pour ceux qui vont être mobilisés et qui n'habitent pas en Île-de-France. A noter, toujours sur ce sujet des Jeux Olympiques, qu'il ne sera pas possible de payer en carte bleue dans les commerces liés à la compétition, comme les buvettes ou les boutiques officielles, sauf si vous avez une visa. La raison, c'est que le Comité international olympique qui organise les JO a un partenariat avec l'entreprise Visa qui détient donc le monopole sur l'événement. Alors si vous n'avez pas de visa, vous pourrez soit payer en liquide, soit acheter une carte digitale prépayée qui sera directement sur votre téléphone avec une application lancée pour l'occasion. Quatrième actu, toujours en France, l'Assemblée nationale a approuvé ce mercredi en première lecture une loi de réhabilitation pour les personnes condamnées pour homosexualité. En fait, en France, des lois discriminatoires envers les personnes homosexuelles ont été mises en place pendant des années, comme le fait que l'âge du consentement pour les actes homosexuels ait été relevé à 21 ans, alors qu'il était de 15 ans pour les actes hétérosexuels. Cette loi a été en vigueur de 1942 à 1982. Résultat, de nombreuses personnes ont payé une amende ou sont même allées en prison à cause de leur homosexualité. L'objectif de cette loi, c'est donc de reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes homosexuelles en leur versant de l'argent. Dans son propos introductif, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a demandé pardon aux personnes victimes de discrimination en raison de leur homosexualité. Selon le rapporteur du texte, le député socialiste Hervé Solignac, entre 200 et 400 personnes devraient pouvoir bénéficier de cette réparation. La proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat, on suivra ça. Cinquième actu, au Sénégal, après de multiples rebondissements, le premier tour de l'élection présidentielle a été fixé au 24 mars. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le porte-parole de la présidence sénégalaise. Alors on en a pas mal parlé ces derniers jours, le président sénégalais Macky Sall a provoqué une véritable crise politique dans son pays début février lorsqu'il a annoncé vouloir reporter la présidentielle prévue le 25 février au mois de décembre. A noter au passage que Macky Sall ne se représentera pas, en revanche, le premier ministre Amadou Ba, qui est candidat à la présidentielle, a quitté ses fonctions pour se consacrer à sa campagne électorale et il a donc été remplacé par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. Sixième actu, ce sera la chaîne de télévision M6 qui diffusera les matchs des Coupes du Monde de football de 2026 et 2030. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi sur RTL le PDG du groupe M6, Nicolas Taverneau. La raison, c'est que le diffuseur historique, la chaîne TF1, n'a pas voulu poursuivre le partage des diffusions. Ceci dit, TF1 pourra toujours en diffuser ponctuellement en achetant les droits à M6. A noter que les chaînes se partageront la diffusion des matchs de l'Euro 2024 en Allemagne. Et on termine avec une bonne nouvelle, un test salivaire pour détecter l'endométriose, qui est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10, devrait être remboursé pour certaines femmes par la Sécurité sociale dès 2025. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la ministre de la Santé Catherine Vautrin, qui estime que ça devrait concerner entre 10 000 et 20 000 femmes, sachant que ce test coûte environ 1 000 euros. Alors c'est assez majeur, car l'endométriose est aujourd'hui diagnostiquée souvent par hasard, avec en moyenne un retard de 7 ans, selon le ministère de la Santé. Les symptômes sont généralement de fortes douleurs pendant les règles, mais aussi des difficultés pour avoir des enfants. A noter au passage qu'une plateforme en ligne destinée aux femmes touchées par l'endométriose va être dévoilée cette semaine. On pourra trouver dessus toutes les informations et les ressources indispensables pour affronter la maladie et des conseils pour apprendre à vivre avec. Je vous mets des liens en description.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.